Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le Gratin Éric Rouleau. Chirurgien orthopédiste et traumatologue depuis 25 ans, le professeur Rouleau est membre du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, spécialisé en chirurgie orthopédique de la main, des doigts, du coude et de l'épaule. Il va en parler dans le podcast, il appelle ça le membre supérieur. Éric exerce en tant que chirurgien orthopédiste à la clinique Jouvenet à Paris et vous pourrez le retrouver sur son site internet www.ericrouleau, donc R-O-U-L-O-T.com, mais aussi, pourquoi pas, sur LinkedIn où il est présent. Le métier de la chirurgie est mal connu, souvent rêvé, voire fantasmé. En tout cas, moi, je n'y connaissais rien avant de rencontrer Éric. Et il me semblait donc important de donner la parole à l'un d'entre eux, d'autant que je connais Éric depuis plusieurs années et que j'ai très vite été fascinée par deux aspects de sa personnalité. Premièrement, vous allez voir son humilité. J'ai découvert, figurez-vous, en préparant cet épisode, qu'il s'était engagé à plusieurs reprises en tant que bénévole volontaire lors de crises humanitaires de grande ampleur, un sujet dont il avait soigneusement évité de me parler jusqu'à présent. Quand on y pense, c'est juste fou. Deuxièmement, son sens des responsabilités. Quand on est chirurgien et que l'on est le seul pour prendre une décision parfois vitale en pleine situation de crise, eh ben je peux vous dire que ça forge le caractère. Vous verrez qu'au-delà de nous témoigner de comment on prend une décision dans ces situations de crise, Éric m'a beaucoup parlé du rôle du médecin face à son patient, mais aussi de celui du patient vis-à-vis de son médecin. Parce qu'au final, le médecin est là pour nous guider et conseiller. Un point sur lequel Éric insiste beaucoup, il n'est pas là pour prendre la décision à votre place. Durant cette conversation avec Éric, on a donc évoqué comment il était tombé très tôt dans la marmite de la médecine, peut-être un peu par défaut, il faut l'avouer, mais on a aussi fait des parallèles entre le métier de chirurgien et celui d'entrepreneur, ou aussi de pilote de ligne, vous allez voir, notamment en ce qui concerne la prise de décision. On a aussi évoqué son engagement humanitaire, donc, et là je vous préviens, il faut avoir le cœur un petit peu accroché, parce qu'Éric a vraiment été plongé dans des situations absolument dramatiques. Le Gratin est là pour vous faire rencontrer des personnalités extraordinaires, des personnalités qui sortent des sentiers battus, qui sont un petit peu atypiques, c'est important pour moi. Et je pense pouvoir dire sans hésiter qu'Éric remporte le pari haut la main. Derrière un discours méthodique et qui peut sembler froid, sans doute ce que veut son métier de chirurgien d'ailleurs, se cache une personne d'une immense générosité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Éric Rouleau. Salut Éric, je suis ravie de t'accueillir sur le Gratin.
Pauline, bonjour. Écoute, c'est un plaisir d'être avec toi.
Oui, bah écoute, je te remercie d'avoir accepté un dimanche en plus de te joindre à moi.
Dimanche ensoleillé.
Exactement. Et puis, je suis très contente parce qu'en fait, j'ai jamais eu, figure-toi, de chirurgien sur le podcast, mais j'ai eu assez peu de médecins de la profession médicale. J'ai eu malheureusement peu d'invités et donc c'est fort dommage. Et je suis contente de rétablir un petit peu le juste droit de cette belle profession. Comme j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent rien au métier de chirurgien, si ça te va, ce que je voulais faire, c'était essayer de commencer par essayer de se projeter un petit peu dans ton quotidien et les aider à visualiser à quoi ça ressemble finalement la vie d'Éric Rouleau. Donc en gros, si ça te va, ce que je veux bien que tu fasses, c'est que tu commences par m'expliquer en gros à quoi ressemble un peu une de tes journées type, à quelle heure tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais, enfin vraiment tous tes petits rituels si tu veux, notamment peut-être tu vois plutôt pour une journée où tu opères, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses qui reviennent de manière très précise et je pense que ça peut être intéressant pour qu'on se rende compte justement en fait de tout ce que tu fais.
Du quotidien. Les journées où j'opère, alors ça va être facile, j'opère quasiment tous les jours donc en fait on peut pas imaginer une journée où j'opère pas. Le quotidien, c'est à peu près, c'est des journées qui sont très reproductibles, on va dire. Le démarrage, c'est 6h30 le matin parce qu'on démarre assez tôt. Et en
attends,
fait,
quand tu dis 6h30 le matin, je vais t'interrompre de temps en temps, je suis désolé.
Démarrage, réveil.
D'accord, réveil, ouais. pas quand même sur le bloc.
Non, non, le bloc, bah, on travaille en équipe, hein, donc on ne peut pas non plus faire démarrer les équipes aussitôt que ça. En gros, je suis à pied d'œuvre à 8h, donc soit j'opère le matin, soit je consulte le matin. Et le démarrage, c'est 8h, c'est l'heure un peu habituelle. Et comme on travaille en équipe, bah, on est obligé d'être à l'heure. Ça, il n'y a pas de possibilité de déroger à cette règle. La logique, c'est soit donc une demi-journée de consultation et une demi-journée de bloc opératoire, soit l'inverse. Certains chirurgiens font des journées opératoires entières. C'est extrêmement éprouvant parce qu'il faut être assez concentré toute la journée. Mmh. Et on a vite tendance à déraper. C'est-à-dire que quand on fait des journées entières, on fait pas de pause. Et au final, pour gagner du temps, on finit par ne pas arrêter. Mmh. Les consultations, bah, en fait, la chirurgie, c'est à la fois, et c'est paradoxal, un travail qui est très solitaire parce qu'on prend toutes nos... Quoi, moi, je suis chirurgien libéral et je travaille en tant qu'hospitalier aussi. Donc, j'ai une double casquette libérale et hospitalière et les deux exercices ne sont pas tout à fait identiques. Sur le plan libéral, qui est quand même mon activité principale, on est extrêmement seul. C'est-à-dire que une fois qu'on a quitté sa formation et qui est longue, on prend toutes les décisions vraiment tout seul. On a très peu d'échanges avec les collègues, c'est-à-dire que dans l'idéal et dans une vie rêvée, il faudrait avoir des décisions qui soient collégiales et pouvoir échanger ses idées. Mais en pratique, en tout cas en France, dans la vie d'un chirurgien libéral tel que je l'exerce, et je pense qu'on est très très nombreux comme ça, toutes les décisions on les prend seul et on les assume tout seul. Donc c'est peut-être la caractéristique première de ce métier, c'est qu'on est au final très solitaire. Très solitaire dans sa tête, très solitaire dans ses choix et très solitaire dans ses décisions qu'il faut assumer et puis dans lesquelles il faut en théorie pas se tromper. Mmh. Après, on travaille quand même en équipe, donc on est à la fois seul et libéral et en même temps on est un petit chef d'entreprise parce qu'on a des gens avec qui on travaille et alors on peut pas parler de gens qui travaillent sous notre dépendance, mais quand même on est le leader sans que ce soit présomptueux. C'est-à-dire que toutes les erreurs qui peuvent se produire et qui que ce soit qui fasse l'erreur dans l'équipe, c'est le chirurgien qui l'assume.
C'est ta responsabilité.
Et donc, c'est une responsabilité voilà, qui est la nôtre. Et l'équipe, on la dirige. C'est une équipe qui souvent est fournie par les établissements dans lesquels on travaille, donc sur lequel on n'a pas tout à fait le contrôle de qui on choisit et avec qui on travaille. Alors, avec le temps, on finit souvent par trouver des gens qui s'entendent bien avec nous et on arrive à peu près à tomber sur des gens qui nous correspondent.
Mais au niveau de l'équipe, juste, Eric, c'est, en fait, ça va être à la fois des personnes en back-office, c'est-à-dire la personne qui va gérer ton agenda, etc., parce que j'imagine que tu ne peux pas gérer toi-même l'organisation de tes consultations et ta présence au bloc. Et puis, tu as aussi les personnes, alors c'est mon vocabulaire un peu e-commerce, back-office, front-office, je suis désolée, il doit y avoir d'autres mots, mais front-office, qui est la partie plus, quand tu es sur le bloc, j'imagine des personnes avec lesquelles tu collabores quand tu es en train d'opérer la personne. C'est ça pour que je comprenne ?
Non, en fait, l'agenda, c'est moi qui le gère quand même. Moi, sur la consultation, en fait, j'ai juste une secrétaire qui est présente. Alors, de temps en temps, certains chirurgiens consultent avec leur secrétaire dans la même pièce. Moi, je consulte tout seul parce que je pense que c'est un vrai tête-à-tête avec son patient. Et je pense pas que la secrétaire ait un rôle utile. Et donc, ma secrétaire, moi, elle est dans la pièce à côté, elle accueille les gens, elle a un travail qui lui est personnel et elle fait un énorme travail relationnel, c'est-à-dire qu'elle accueille les gens, elle leur explique beaucoup de choses qui sont des choses assez répétitives, qui sont comment on se prépare avant une intervention, comment on se lave, comment on s'épile, comment on prend les médicaments, à quelle heure on arrive, est-ce qu'on repart tout seul, quels sont les arrêts de travail. Donc elle a un travail absolument phénoménal de mise en place. Mais par contre, l'agenda, c'est moi qui le décide. Et, elle prend les rendez-vous et ensuite de ça, on est... avec une consultation dans la chirurgie que j'exerce, moi je fais de la chirurgie du membre supérieur, on a des très gros débits en quantité de patients, c'est des opérations qui sont parfois très courtes et c'est surtout des grosses quantités, des gros flux de patients. Et en fait, les consultations, moi j'ai ma secrétaire qui est à côté, mais je la vois à peine en fait. On est chacun à travailler vraiment dans des cadences qui sont assez importantes. Hein. On peut voir jusqu'à 40 patients par consultation.
Donc par jour
par demi-journée.
Par demi-journée, 40 personnes. C'est
ça dément. Sous-entend des débits qui sont considérables. Et en plus, il faut que la consultation elle ait un caractère humain, bien évidemment, parce que c'est extrêmement important pour les gens. Et pour nous aussi, d'ailleurs, parce que ce qui fait le cœur du métier, c'est quand même le contact humain. Et le plaisir de la consultation, c'est de découvrir un peu les gens. Mais arriver à se faire une idée sur les gens en très peu de temps, en fait, c'est difficile.
Ouais.
Et ce qui est d'ailleurs le plus caractéristique de la chirurgie, à mon avis, c'est que les gens pensent toujours que c'est un métier extrêmement technique et que tout se base exclusivement sur la technicité et sur l'habilité des gens. En fait, il n'y a pas besoin d'être habile ou adroit de ses mains pour être bon chirurgien. Et
toi, tu m'étonnes, effectivement.
Oui, c'est assez surprenant, mais je pense que... En fait, tout le monde peut accéder à la chirurgie. D'ailleurs, la sélection ne se fait pas sur l'habilité des gens, elle se fait sur les études. Mmh. Et alors, il y a des gens qui sont tellement pas habiles que ça peut poser problème. Enfin, c'est vraiment des exceptions. Et en réalité, ce qui fait la qualité de l'acte technique, c'est surtout la réflexion du bien fondé de l'acte, déjà, et la stratégie opératoire.
C'est-à-dire, si je reformule pour les néophytes, en gros, est-ce qu'il faut opérer ou pas ? C'est pas forcément une nécessité.
Oui, ça c'est le plus important, c'est de ne pas emmener les gens sur des voies qui ne sont pas les bonnes.
Alors, c'est ça. Et après, quel type d'opération ? Parce que finalement, ça c'est toi, ta décision, ton diagnostic et la manière dont tu vas le...
Alors le type d'opération, ça pourrait relever que de la connaissance et de la technicité. Y a un facteur qui est extrêmement important aussi, c'est la perception de la personne. C'est-à-dire qu'une opération qui marchera chez une personne ne marchera jamais chez une autre. Et donc il y a tout un travail psychologique qui est en fait un travail de... mais je pense que c'est pareil dans la vente ou dans...
Ouais, mais c'est drôle, du coup, que tu me le dises pour la chirurgie, parce que je suis d'accord, mais j'aurais jamais pensé... T'aurais un exemple d'un cas, sans citer de nom de patient, tu vois, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Ça signifie concrètement que, en tout cas, dans la chirurgie du membre supérieur, il y a une caractéristique, c'est qu'il y a une pathologie que les gens peuvent faire quand ils ont été opérés, c'est des réactions réflexes qui font qu'ils ont des réponses opératoires qui sont extrêmement mauvaises, et qui font une sorte de sidération de tout le membre supérieur qui devient bloqué, qui devient douloureux, qui devient gonflé, qui devient inflammatoire, uniquement pour une réaction...
Et ça, c'est psychologique, en fait, quasiment.
C'est créé par l'angoisse de la personne, son stress et sa façon de tourner en boucle. Donc, en fait, le côté un peu redondant de la façon qu'ont les gens de penser... Donc, c'est pas psychique, parce que psychique, on va tout de suite dériver sur du psychiatrique, alors qu'il n'y a rien de psychiatrique. C'est l'état de stress. C'est un peu l'image qu'on pourrait prendre. C'est un peu comme quand quelqu'un passe un examen ou son permis de conduire ou son bac, qu'il a vachement bien révisé et qu'au final, il va se planter quand même tellement il est stressé. C'est-à-dire qu'il va tout rater, il se rappelle de rien, il tremble, il transpire, il a mal au ventre, il est dans un état de stress délirant. Ce système, qui est un système réflexe, qui est un système, ce qu'on appelle le système sympathique. Alors, il y a que le nom qui est sympathique. C'est un système qui est extrêmement... délétère, c'est-à-dire que c'est un système qui était franchement utile quand on était à l'âge de pierre.
Ouais, parce c'est
que
ça.
À l'âge de pierre, tu te fais attaquer, et si tu réagis vite et que tu pars en courant plus vite que les copains, bah, t'es le seul qui se fait pas bouffer. Mais de nos jours, on ne se fait plus courser de la même façon. Au niveau chirurgical, c'est un énorme handicap. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont trop réactifs. Et donc, quand on les opère et qu'ils n'ont pas fait la paix intérieure et qu'ils sont extrêmement stressés, ils posent des questions en consultation une fois, deux fois, trois fois, et après l'opération, ils reposent les mêmes questions. Et en fait, je pense que la nuit, ils y pensent encore. Et du coup, ils font des réactions épouvantables. Donc ça, c'est tout un travail d'approche qu'il faut faire dans des conditions de discernement ultra rapide, parce que les gens, on les voit sur une consultation avec le débit.
Pour comprendre la personne captée tout de suite qu'elle a potentiellement cette angoisse, c'est quand même pas évident, quoi.
Si elle a cette angoisse, il ne faut surtout pas l'autocher, parce qu'on est sûr qu'on va aller à l'échec. L'échec qui va être l'échec dû à cette réaction, qui passe avec le temps, mais qui fait que l'ensemble du résultat est mauvais et que le suivi après est extrêmement complexe. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils ne vont pas bien. Donc après, on rentre dans une espèce de spirale qui est auto-inflationniste, c'est-à-dire que plus ils vont mal, parce qu'ils s'affolent d'aller mal, et comme ils s'affolent d'aller mal, ils vont encore plus mal. Donc c'est quelque chose qui est assez pervers.
Donc toi, en fait, quand tu as quelqu'un qui arrive en consultation, ce qui est assez intéressant, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, c'est à la fois tu étudies le problème au niveau technique. Mais en fait, tu as ton deuxième cerveau en parallèle qui est en train de se dire, en fait, cette personne, psychologiquement, où est-ce qu'elle en est ? Quel est un peu son état d'esprit ?
Oui. Alors, c'est même pire que ça. Quoi pire que ça ? Je ne sais pas si c'est pire ou mieux, mais je pense que si Sherlock Holmes a été écrit par un médecin, ce n'est pas un hasard. Parce que je constate, et ça me désole un peu parfois, parce que je me dis c'est très réducteur sur ce que je fais, parce que probablement qu'il ne faut pas beaucoup d'intelligence pour faire ce métier, si c'est aussi simple, mais entre guillemets, il y a des gens... À peine ils ont fermé la porte de la pièce pour s'asseoir, c'est-à-dire ils rentrent dans la pièce, et j'ai déjà le diagnostic alors qu'ils ne m'ont pas parlé. Alors c'est assez phénoménal, je pense que c'est une sorte de... On ne va pas parler de pression, je pense que c'est l'habitude, mais une façon de percevoir les gens sur leur démarche, sur leur âge, sur leur apparence, sur la façon dont ils vont s'asseoir. Et je sais déjà, en regardant aussi un peu le physique, hein, je vois si les doigts sont déformés, je vois si ils penchent un peu, et des choses comme ça. Et donc j'arrive à faire le diagnostic. Donc presque sans voir les examens, Alors évidemment, je contrôle parce qu'on peut toujours se tromper. Donc l'idée, c'est pas non plus d'être, d'avoir l'impression de tout savoir et de faire des erreurs sous prétexte qu'on a trop confiance en soi. Mais de temps en temps, j'ai le diagnostic avant qu'ils ouvrent la bouche. Et donc ma seule préoccupation, c'est surtout de percevoir à qui j'ai affaire pour savoir si je vais ou pas lui rendre service. Et surtout, d'arriver à la fin de la consultation qui dure pas très longtemps, hein. Alors, parfois longtemps quand c'est très compliqué, hein. Tout dure pas que 10 minutes, un quart d'heure, bien sûr, hein. Il y a des consultations qui durent une heure et là, ça gêne tout le déroulement de toute la consultation pour les autres qui comprennent pas pourquoi ils attendent d'ailleurs. Mais en réalité, toute la difficulté, c'est d'arriver à percevoir quels conseils on pourrait donner à la personne pour être dans le vrai. Et moi, je termine jamais une consultation sans, au moment de la décision, en général, j'expose aux gens la pathologie qu'ils ont. Mmh. J'essaie de leur faire comprendre, parce que je ne supporte pas de décider à leur place, parce que je pense que ce n'est pas mon rôle. Et je pense que c'est très délétère que les gens se laissent porter, parce qu'ils ont souvent tendance à faire confiance au docteur, et du coup, ils s'abandonnent complètement, ce qui est, à mon avis, une hérésie. Et je les incite à faire leur choix eux-mêmes. Quand c'est difficile, c'est-à-dire quand la balance est équilibrée, je leur dis, voilà, moi, je ne sais pas choisir, c'est 50-50. Quand je pense qu'il y a un vrai avantage, je les pousse un peu vers le vrai avantage. Et j'essaye surtout de me mettre à leur place, de me dire, voilà, si j'étais à leur place, est-ce que je ferais? Est-ce que vraiment il y a un bénéfice? Parce qu'il y a une dérive qui est très tentante, c'est de cesser d'aller à la chirurgie. Pas pour des raisons financières ou des raisons de, mais parce qu'on est formé à opérer et que la chirurgie, avec le temps, on la fait tellement qu'elle nous fait un peu moins peur peut-être. Mmh. Et du coup, on a tendance peut-être à être exposé à la dérive. Et donc, je crois que c'est super dangereux. Et l'idée, c'est d'être toujours le pied sur le frein en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas opérer quelqu'un. Ouais. Alors moi, j'ai poussé ça tellement loin dans ma démarche que j'ai des correspondants qui m'envoient les patients. Les patients arrivent en me disant « Mon médecin m'a envoyé chez vous parce qu'il m'a dit « Lui, il ne vous opérera pas parce qu'il opère personne, il ne veut pas. » Alors, c'est un peu vexatoire quelque part, mais en même temps, je pense que c'est...
pas tout à fait vrai quand même.
Non, parce que je finis par opérer énormément. Mais alors au début, c'était difficile. Moi, mes premières années d'installation, j'avais personne dans ma salle d'attente et ça n'avançait pas parce que justement... j'avais peu de monde dans la salle d'attente comme tout le monde, mais j'avais peu d'opérés derrière parce que justement, j'ai toujours respecté cette règle. Il me paraît essentiel.
Plein de questions. Justement, en fait, là, tu me tends une petite perche quand même pour revenir un petit peu en arrière. Tu vas voir, c'est décousu ce podcast, mais c'est normal.
C'est le principe. Hein.
Si on revient justement quelques années en arrière, rappelle-moi, toi, tu venais d'une famille de médecins ou rien à voir?
Alors moi, je suis d'une famille ultra médicalisée parce que mon père était chirurgien.
D'accord. Et j'avais quand même un petit.
Alors oui, ma mère était infirmière anesthésiste et mon père a travaillé avec ma mère. Ils travaillaient tous les deux à une époque où on pouvait faire les aides opératoires en couple. Donc c'était assez étonnant. Moi, je suis d'une famille de 6 enfants et j'ai un peu baigné dedans tout petit, ce qui m'avait d'ailleurs complètement dégoûté de la médecine et de la chirurgie. Et parce que, comme on était 6 enfants à une époque où, après-guerre, ça se faisait beaucoup, et c'était les périodes de congé, ma mère partait avec mes frères et sœurs, on était quand même nombreux. Et en pratique, mon père remplaçait ma mère par moi quand il partait en vacances. Donc moi, j'ai commencé à...
Parce que t'étais l'aîné.
Non, j'étais l'aîné. J'étais le premier garçon, mais j'étais quatrième de la fratrie. D'accord. Donc j'étais pas du tout l'aîné, mais à 14 ans, 15 ans, je faisais des aides opératoires l'été. Et donc je montais sur un escabeau et j'allais aider mon père. Alors maintenant, ça paraîtrait complètement ubuesque, qui est probablement totalement interdit,
oui.
Voire répréhensible.
Certainement.
Mais c'est une époque où les chirurgiens avaient une formation d'ailleurs assez extraordinaire et très supérieure à la nôtre, je trouve. C'est qu'ils savaient tout faire. Ils faisaient tout, ils avaient peur de rien. Nous, on est devenus hyper spécialisés, c'est-à-dire qu'on ne connaît qu'un tout petit bout de l'être humain, on ne connaît qu'une petite portion. Moi, je connais bien la main, mais dès que ça sort de la main, ou du coude de l'épaule, je suis complètement perdu. Et en fait, eux faisaient tout. Alors, ils avaient une chirurgie qui était sûrement moins performante, organe par organe, mais ils avaient une capacité d'adaptation qui était phénoménale. Et c'était une époque aussi où les choses étaient moins... je dirais, moins procédurière et moins organisée par une technocratie qui, actuellement, est quand même très...
T'exerçais ton art et tu sauvais des gens, quoi, tout simplement.
Mais ils sauvaient vraiment des gens. Ils sauvaient vraiment des gens et ils étaient... c'est comme le médecin de campagne faisait plein de choses et maintenant, ça s'est complètement perdu.
Et tu disais que toi, du coup, tu avais été un peu dégoûté, mais finalement, tu es quand même revenu.
Quand on passe une partie de ses... Alors, j'avais des vacances quand même, hein, mais quand on passe une partie de ses vacances d'été à faire l'aide opératoire et à tenir les écarteurs, et moi, il était chirurgien digestif, donc c'était de la chirurgie abdominale,
oui,
c'est
plus,
pas toujours très, très glamour. Bon, voilà. Alors, à l'époque, ça ne s'appelait même pas chirurgie abdominale, ça s'appelait chirurgien généraliste.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il faisait du digestif, mais il faisait aussi des fractures de fémur, il faisait des œsophages, il faisait de l'ORL, c'était complètement dément, quoi.
Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, non, mais parce que c'est quand même un choix de vie, c'est une vocation, tu le sais plus que personne, c'est un vrai choix de vie. Donc, à un moment donné, si jamais ça te faisait, enfin, tu l'avais déjà, t'en avais déjà bouffé, entre guillemets, dès l'âge de 14 ans, tu savais aussi dans quoi t'allais t'embarquer.
Oui, alors non, en fait, ça n'a pas été un choix de vie. Moi, j'ai eu mon bac en poche, j'avais 16 ans, c'était un bac mathématiques. Et j'étais un peu turbulent à l'époque, et donc j'avais pas tellement anticipé les choses. Et en fait, moi, je voulais être pilote, donc c'était pas du tout la vocation de chirurgien.
Pilote de ligne. Chasse.
Ouais, pilote de ligne, oui. Non, pas de chasse, pilote de ligne. C'était surtout pour le côté, je pense, voyage et exotisme.
Ouais.
Et vu qu'on a quand on est ado ou gamin, quoi. Et en pratique, l'École nationale d'aviation civile a fermé ses portes au moment où moi j'ai eu mon bac en poche. Et du coup, je crois que ça a fermé pendant 5 ans. Donc, mon père qui m'accompagnait devant l'école en question m'a dit « Écoute, tu ne vas pas perdre ton temps, il faut absolument que tu fasses des études. Je te conseille médecine, au moins ça ne te fera pas perdre le training. Tu prépares un concours, ça va te donner une certaine...
rigueur
et persistance dans ton cursus. Et en plus, comme j'avais pas, je m'étais pas inscrit dans des prépas ou des choses comme ça, en fait, je me suis inscrit en médecine. Alors, mon drame, c'est que j'ai réussi parce que j'ai pas mal bossé, mais bon, voilà, j'ai eu du premier coup. Et après, une fois qu'on est parti dans la médecine, ça dure tellement longtemps comme étude que c'est difficile de revenir en arrière. Et puis, je suis devenu myope avec le temps parce que je sais pas si c'est les amphithéâtres et les heures tardives, mais. Toujours est-il qu'au bout de 4-5 ans, pilote, c'était plus tout à fait adapté. Et puis j'avais perdu les notions mathématiques. On fait beaucoup de biophysique, biochimie, c'est des choses qui s'en approchent, mais enfin, c'est pas le niveau quand même.
Mmh. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'au sein de tes études, tu as choisi d'aller finalement sur la chirurgie, comme ton père, mais de choisir précisément l'orthopédie? Parce que j'ai cru voir en fait, que tu l'as choisi quand même. Enfin, à un moment, je ne sais pas à quel stade des études justement tu le choisis, mais c'est quand même... pas si tard, finalement, dans le process.
Si, on choisit très tard, en fait, parce que moi, j'ai choisi chirurgie parce que ayant fait médecine un peu sans, justement, vocation, j'ai choisi la chirurgie parce que je pense que la médecine, j'aurais jamais réussi. Je trouve ça extrêmement difficile et astreignant. Et en plus, il n'y a aucun gestuel, donc c'est vraiment très, très intellectuel, par contre. Et je me suis dit, la seule médecine que je pourrais faire, c'est la chirurgie, quoi. C'est plus un choix par l'inverse. Et en fait, on choisit, médecine, c'est 7 ans. Après, on passe les concours. Alors maintenant, ça a changé, mais à l'époque, c'était le concours de l'internat. Et c'est une fois que tu as le concours de l'internat que tu peux choisir ta spécialité.
Ça fait 7 ans déjà quand même que tu bosses et après, tu spécialises.
Tu passes un concours en première année qui est assez restrictif, et en fin de médecine, tu repasses un concours qui, donc à l'époque, maintenant ils ont essayé, je pense, de casser un petit peu la notion d'internat, c'est-à-dire que l'internat c'était entre guillemets une élite. Alors on est dans une société qui maintenant, en France en tout cas, déteste les élites, donc on a supprimé les élites, et donc on a fait un internat pour tous, c'est-à-dire que tout le monde est interne, et en réalité maintenant il y a les internes et les internes de spécialité. Et avant, on était interne quand on faisait une spécialité, donc en fait c'était une sélection qui se faisait par un concours qui était quand même assez rigoureux. Et pour être chirurgien, il fallait être dans les premiers au concours, donc c'était même pas sûr de l'avoir.
C'est-à-dire
que moi, j'aurais vraiment été assez désappointé si je l'avais pas eu. Donc j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'avoir ce concours parce que je me voyais mal médecin et ça me tentait pas du tout. À l'hôpital, c'était des visites qui étaient interminables, ça durait des heures au lit des patients, t'avais un patron qui était en général assez... doctoral et qui te parlait des patients, mais alors passer trois quarts d'heure à savoir si le patient a mangé bien le matin, moi honnêtement, j'arrive pas à me concentrer.
Ça,
voilà, c'était pas assez radical. Ouais. C'est hyper utile, hein, c'est très impressionnant et c'est vraiment un métier admirable, mais que j'aurais été incapable de faire, très sérieusement. Moi, je suis plus manuel, gestuel. Ouais.
Et l'orthopédie, pourquoi?
Alors l'orthopédie, parce que je trouve que c'est assez carré, quoi. C'est quelque chose où ce qui est droit est droit et ce qui est pas droit est pas droit, donc ça c'est plutôt rassurant.
On rabote,
on met des plaques, on met des vis, et puis le résultat, pareil, il est d'emblée visible, donc ça c'est assez agréable, c'est-à-dire qu'on regarde une radio, on a réussi, on n'a pas réussi, on sait tout de suite. Et puis il y a aussi le côté traumatologie, ça c'est assez important, c'est que quand les gens ont des accidents graves et qu'ils ont des traumatismes, que ce soit des amputations ou des fractures sévères, un accident de moto, tout ce qu'on veut, on a l'impression franchement d'être utile dans l'immédiat. Donc c'est très très valorisant.
Ah bah, ça doit être
c'est magique. Ouais.
Oui, enfin quand tu vois effectivement, tu m'as déjà raconté deux trois fois parfois des décisions que t'es obligé de prendre sur le bloc, et ensuite quand tu vois le résultat avec la personne, bah saine et sauve, j'imagine quand même que le sentiment de que tu ressens quand même quand tu sors de ce genre de moment doit être assez spectaculaire. Enfin, je peux imaginer à quel point le métier est difficile, mais t'as quand même de ce point de vue-là quelque chose que quasiment aucun autre métier n'a en termes de ressenti.
Ouais, alors c'est à deux niveaux. Il y a la satisfaction du geste qu'on effectue, c'est-à-dire comme quand on bricole et qu'on arrive à faire quelque chose, on se dit chouette, j'ai réussi à faire un truc compliqué.
Le geste juste.
Le geste juste, ouais. Ça tient, c'est beau, on sort, c'est propre. Remettre les choses en état quand on s'en va, avoir une anatomie parfaite, une dissection qui est belle, ça c'est vraiment extraordinaire comme sensation. Je pense qu'un horloger qui fait un travail de précision, il a la même sensation. C'est le côté, la beauté du geste et de la précision. Et après, il y a le côté, je dirais, valorisant du patient qui, effectivement, va mieux. C'est assez cassé quand même par un phénomène qui est que les patients et la société n'attendent que la réussite de nous. Hein. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation, c'est assez étonnant, mais... on peut être content d'avoir fait quelque chose de bien si on fait souvent quelque chose de mal. Le problème en chirurgie, c'est qu'on nous demande que de faire quelque chose de bien. Quand on fait quelque chose de mal, c'est quasiment répréhensible.
Oui, il n'y a pas de droit à l'erreur. Pour le
Donc,
coup.
En fait, le côté on sauve les gens, on est ramené à une certaine humilité par le fait que c'est ce que l'on nous demande. Donc, c'est même pas exceptionnel de le faire, c'est la normalité. Et la deuxième chose... c'est qu'on se dit que si on l'avait pas fait, un autre chirurgien l'aurait fait et qu'au final, les gens sont soignés et croire qu'on est meilleur que le voisin, c'est forcément une erreur. Ça, je pense qu'en chirurgie, en tout cas, c'est un, sûrement pas vrai et deux, on est souvent, si on a l'illusion de ça, je dis, ramené sur terre par les échecs qui suivent parce que dès qu'on prend confiance et même avec l'expérience et l'ancienneté, tôt ou tard, l'être humain est ainsi fait que, en fait, on peut jamais imaginer que le geste va être prévisible et qu'on va avoir la réussite sous prétexte qu'on sait le faire. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des anomalies anatomiques qui font qu'on passe complètement à côté et qu'on se fait avoir. De temps en temps, il y a des conditions techniques qui sont pas bonnes parce que le malade dort mal, que le garrot tient pas, que l'équipe est pas bonne, que le matériel n'est pas prêt, que et alors à ce moment-là, c'est une succession de catastrophes qui fait que c'est Trafalgar à la fin. Donc on est très souvent, dès qu'on prend confiance, c'est là qu'on prend le gadin. Donc faut se lever le matin en se disant c'est dur comme au premier jour. Et c'est peut-être aujourd'hui que je vais me prendre une claque, un peu comme au volant. C'est-à-dire que dès qu'on commence à être un peu trop sûr de soi, c'est là qu'on risque de se planter dans un virage ou de glisser ou de ne pas regarder. Donc en chirurgie ou en pilotage ou tout ce qu'on veut, hein, c'est des métiers où il faut quand même, dès qu'on a quitté sa maison, il faut être concentré comme au premier jour. Donc,
c'est très drôle en fait que tu me dis, je ne savais pas du tout que tu avais voulu être pilote plus jeune, mais en fait j'y vois... pas mal de similitudes au sens où quand tu pilotes, en fait, souvent on dit que le drame arrive quand il y a une succession de problèmes. Et du coup, bah, en fait, au début, tu as ta checklist, t'as tout en fait, et tu vérifies justement pour éviter un maximum les erreurs. Et souvent, les problèmes viennent quand il y a un premier souci qui n'était pas anticipé, puis un deuxième, donc la météo, etc. Et ça, à chaque fois, quand on voit les avions qui se crashent, malheureusement, c'est pas un problème, c'est quatre problèmes d'un coup. Et je me rappelle que tu m'avais dit une fois que finalement, bah, le drame dans la chirurgie et dans l'humain, c'est qu'en fait, bah, des aléas, il y en a tout le temps, parce qu'en fait, c'est un matériau qui est vivant et qui évolue, et que même si tu connais très bien ton métier, ça peut arriver. Et là où en fait, je vois un rapprochement, c'est que quand on est pilote, par exemple, bah, en fait, il faut prendre une décision très rapide, parce que tu n'as pas le temps. Et toi, j'imagine que c'est un peu la même situation. C'est-à-dire que quand, en fait, alors tu as l'expérience, mais quand... Tout d'un coup, en fait, tu as 3-4 problèmes d'un coup qui arrivent, qui n'étaient pas anticipés. Ce que je trouve très intéressant, c'est comment, en fait, tu prends ces décisions-là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un cas qui devient, sans citer de nom, hein, bien sûr, mais d'une personne où, bah voilà, tout était censé aller bien. Et en fait, bah, tu as le truc habituel de la succession de 4 problèmes d'un coup. Et du coup, bah, tu es sur le feu et tu es obligé de te dire, OK, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi?
Alors en fait, on a souvent ces situations-là. Bon, c'est bon. Alors l'analogie avec le pilotage, elle est importante parce qu'on a des procédures qui sont maintenant de plus en plus dérivées de l'aéronautique. C'est-à-dire qu'avant de démarrer une opération, on a des checklists qu'on fait en équipe. Ils sont devenus obligatoires et on fait une sorte de récapitulatif de savoir si tout est en place, si on a bien le matériel qui est prêt, si c'est bien le bon patient, le bon côté, le bon doigt. Ça, c'est hyper important. Ça peut surprendre hein, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande si on opère bien la main droite et si c'est bien le quatrième doigt.
Parce que vous le redemandez à l'oral juste avant, c'est ça ?
On le redemande à l'oral au patient et à l'ensemble de l'équipe. Et alors ça, c'est des choses qui sont très très surprenantes et qui montrent ou combien le métier est dangereux. Moi, à une époque, je faisais faire des croix aux gens sur le doigt qu'on opérait quand c'était des doigts, pour pas me tromper. Et j'ai constaté, au bout d'un an de pratique, de faire dessiner par le patient avant l'opération le doigt, que certains se trompaient. Ils dessinaient pas le bon doigt. Le patient lui-même. Et quand on leur demande, moi je fais très attention, c'est que je leur parle et je compte les doigts en leur disant je compte et le pouce c'est le premier doigt. Parce que les musiciens par exemple, pour eux le premier doigt c'est l'index.
Oui.
Donc c'est très trompeur, le 1, 2, 3. Et je leur montre le doigt pour bien leur montrer, parce que dès qu'on leur dit un annulaire, un auriculaire, le patient qui est un peu sédaté ou qui est stressé, il comprend rien, les doigts, quoi. Donc on peut largement se tromper. Et parfois même les gens se trompent de nom ou d'opération, donc c'est absolument pas fiable. Donc la checklist est indispensable. Et le déroulé de l'opération, oui, les décisions, il faut les prendre toujours très vite, parce que effectivement, quand ça part en vrille, ça part très très vite. Hein. C'est comme l'avion, c'est-à-dire que quand ça commence à déraver, quand le patient saigne, quand le patient va mal, en général, tout va un peu ensemble, hein. C'est comme tu l'as dit. C'est-à-dire que c'est souvent une succession de petites choses qui font qu'on on fait pas attention à la première, on fait pas attention à la deuxième, on est dérangé par la personne qui, parce que quand il y a la deuxième petite chose qui ne va pas, on demande un instrument. À ce moment-là, la penseuse ne trouve pas l'instrument, vient avec un autre instrument, pose la question au moment où le troisième problème se présente, et on répond à la penseuse, et c'est là que ça part en sucette, parce que justement...
C'est des micro-détails.
Ouais. Et il y a aussi l'anesthésiste qui rentre en ligne de compte, qui lui a une fonction extrêmement importante, qui lui aussi peut poser un problème, c'est que quand le patient va mal lui-même sur le fond, et quand on est en train de faire une opération et que le patient va mal, là aussi ça peut être catastrophique, parce qu'on peut te demander de terminer une opération ultra rapidement parce que le patient va mal. Alors l'anesthésie c'est pareil, lui il est tout le temps sur le qui-vive, en fait c'est un peu comme les militaires, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'attendre, mais quand ça pète vite, quoi. Donc c'est difficile parce qu'il faut être capable d'être ultra réactif.
Ça.
Et en chirurgie, la chirurgie qu'on a, moi, au membre sup, on a des temps de garrot, c'est-à-dire que le temps maximum pour une opération du membre supérieur, c'est 1h30 théorique et 2h maximum. Au-delà de 2h, on devient dangereux. Donc, il faut avoir une...
Qu'est-ce que tu veux dire, on devient dangereux? C'est parce qu'il y a un...
Au bout de 2 heures de garrot, en fait, le garrot, ça coupe la circulation, ouais, et au bout de 2 heures de garrot, il y a des risques de paralysie, il y a des risques d'ischémie tissulaire, il y a des risques d'accident grave. Donc, théoriquement, si le patient va mal après 2 heures de garrot, c'est assez normal, c'est que les tissus peuvent mourir du fait d'être resté
en anoxie. Oui, donc en plus, t'as un compteur qui tourne quand t'es en train d'opérer, quoi.
Donc, il y a un compteur en permanence, et quand il y a des opérations qui sont compliquées, parce que parfois, il y a des opérations qui sont ultra complexes, et parfois, il y a plusieurs opérations en une, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une pathologie complexe, on va traiter plusieurs problèmes en même temps. Il faut arriver à tout faire tenir dans la même séance. Et c'est là que l'expérience du chirurgien joue, c'est-à-dire son ancienneté. Et surtout, alors c'est comme les heures de vol en avion, hein, pour ça que l'analogie est encore entière. Et surtout, le fait d'avoir beaucoup fait les gestes, c'est-à-dire que quand on a 3 opérations ou 4 opérations dans la même opération, si on a fait chacune de façon extrêmement fréquente et répétitive, on fait les 4 extrêmement vite et on arrive à aller très vite. Et quand il y a un souci, parce que il suffit qu'une vis foire, une vis qui foire, c'est quand la vis se coince et puis que le tournevis tombe plus dedans et qu'on n'arrive plus à avancer. Une vis qui va se coincer, on n'avance plus, quoi. Donc il faut avoir des réflexes qui découlent de l'expérience de on a déjà coincé tellement de vis qu'on sait ce qu'il faut faire. Ouais.
Ouais, tu sais comment éviter qu'elle se coince parce que tu sais qu'un coup sur deux.
Éviter qu'elle se coince, oui, en théorie, mais déjà on les coince moins, ça c'est sûr. Mais quand elle se coince quand même, il faut arriver à les coincer rapidement. Donc il y a des tas de techniques pour faire sauter une vis ultra rapidement ou savoir changer de technique ou savoir abandonner une vis. Quand est-ce qu'elle dangereuse, quand est-ce qu'elle n'est pas dangereuse, et puis surtout avoir des solutions de repli, c'est-à-dire que je pense que là c'est un peu comme le vol en hélicoptère, c'est quand tu voles tu repères toujours un endroit où tu peux te poser, tu as toujours des solutions de repli en tête, donc en chirurgie tu as toujours des solutions de repli en tête, c'est-à-dire que tu fais une opération mais tu sais te rabattre sur autre chose. Alors c'est ce qui fait la différence entre un chirurgien d'expérience et un qui a un peu moins d'expérience, c'est celui qui n'a pas trop d'expérience ou qui ne connaît pas bien sa chirurgie. Il y a des gens qui se lancent dans des choses qu'ils connaissent pas bien parce que c'est pas qu'ils soient mauvais, mais c'est que la vie c'est ça, c'est qu'on a des patients parfois compliqués qu'on connaît pas, des pathologies qu'on connaît pas bien et qu'on prend en charge quand même, sinon on progresse jamais. C'est là qu'on se met en danger parce qu'on n'a pas une énorme expérience du sujet ou des sujets qui en découlent.
Il t'est déjà arrivé d'avoir à prendre des décisions vraiment difficiles, c'est-à-dire, moi je me mets pas à ta place parce que je n'imagine même pas, mais... C'est de l'humain quand même, c'est une personne, et de temps en temps, tu peux te dire, bah, en fait, là, est-ce que je rebousse chemin? Est-ce que j'arrête? Est-ce qu'au contraire, j'y vais? Enfin, ce genre de choses, je peux imaginer que, c'est pour ça, si je file la métaphore par rapport à l'aéronautique, des moments, souvent d'ailleurs, on dit, il ne faut pas prendre de risques, tu te poses ou quelque chose comme ça, mais Est-ce que ça peut arriver, ce genre de choses, d'avoir à prendre des décisions difficiles?
Oui, le demi-tour ou ce qu'on appelle le no-go, c'est-à-dire où ça arrête en cours d'intervention, oui, ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on arrête, on ferme et puis on dit voilà. Alors, surtout en traumatologie ou dans des chirurgies complexes, quand c'est des. Parce que bon, là, il y a les temps de garde 2 heures, mais quand on fait des réimplantations, par exemple, moi, quand j'étais dans un SOS main où j'ai travaillé. Pendant pas mal de temps, on faisait des réimplantations. Il y a des opérations qui durent parfois 10 heures, 15 heures. Il y a des choses qui sont parfois énormes. Hein. Sur la chirurgie du rachis, il y a des chirurgies qui durent de façon extrêmement longue. Il y a des fois où il faut savoir s'arrêter. C'est-à-dire que sinon, on n'arrivera pas au bout parce que c'est compliqué. Il y a des fois où il faut savoir passer la main. Il y a des fois où il faut savoir refermer pour recommencer le lendemain avec une équipe plus fraîche. Il y a des fois où on ne sait pas quelle décision prendre. Alors ça, c'est toute la difficulté, c'est que la chirurgie, c'est plus on est jeune, plus on a des cas compliqués. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on fait les urgences. Et quand on fait les urgences, on découvre des choses que l'on ne prévoit pas, qu'on n'anticipe pas et qui nous arrivent dessus. Et on est le soir de garde tout seul. Alors là, ça peut être cataclysmique parce qu'il faut assumer tout seul. Alors, on a un training, mais qui n'est pas si considérable que ça. Hein. Les études sont extrêmement longues, mais on affronte au bout de... quand on est chef de clinique, on a déjà fait 7 ans de médecine. On a fait 5 ans d'internat. Le clinica, moi, j'ai fait 4 ans. On arrive, on a quoi, 15-16 ans après le bac de formation
et
on
mal.
Découvre quand même des cas qu'on n'a jamais vus puisque c'est la première fois qu'on les voit quoi. Donc moi ma première garde, j'avais été au travail, c'était ma première garde de chef. Je sais que j'étais sur la route en arrivant à l'hôpital et j'ai croisé un clochard avec son caddie. J'avais raconté cette histoire, justement, c'est celle dont tu me parlais tout à l'heure. Mais je me suis dit, oh là là, il est complètement fou, lui, qu'est-ce qu'il fait? Et puis en fait, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a annoncé une urgence. C'était le clochard qui était passé sous un camion. Ça a été le pire cauchemar de ma vie. C'était ma première garde.
Oui, parce qu'en plus, c'était tout qu'il fallait.
Alors là, ça a été monstrueux, quoi. Alors tu passes une nuit à découvrir des trucs, que tu fais des choses que t'as jamais fait ou que t'as pas suffisamment fait. Et puis, de toute façon, faut finir et puis faut s'en sortir parce qu'il y a pas de.
Mais t'as pas le choix, quoi.
Bah, il y a pas de deuxième équipe et puis il y a pas d'assistance. Hein. On est tout seul. Donc c'est pour ça que la responsabilité médicale, je trouve que c'est toujours très lourd à porter parce que les gens se rendent pas trop compte de ce que ça sous-entend et ô combien c'est complexe. Alors la critique est toujours très simple, hein, mais en pratique, on est parfois lâché dans des conditions qui sont un petit peu complexes.
C'est pour ça que j'étais hyper heureuse de t'avoir, parce que je trouve que c'est important de le rappeler, et de rappeler qu'en fait, c'est des humains quand même derrière qui essayent de faire au mieux, de se battre, et parfois il y a des erreurs, mais sincèrement, vu les circonstances, ça me rappelle un peu, c'est pour ça que je vais arrêter de filer la métaphore avec l'aéronautique, mais je ne sais pas si tu as vu ce film « Sully », le film du mec qui se pose sur l'Hudson, et en fait, toute l'histoire, j'invite d'ailleurs tout le monde à le regarder, c'est un film qui a été fait par Clint Eastwood avec Tom Hanks, et en gros, c'est quelqu'un qui est un mec avec énormément d'expérience, qui est un pilote d'une compagnie américaine. Il commence à décoller de je crois que c'est l'aéroport de New York, et quand il décolle, là, il y a un nuage, si tu veux, d'oiseaux qui percute en fait l'avion, et notamment les réacteurs. Et donc, l'avion, tout d'un coup, n'a plus de réacteurs. Et comme il était encore en montée initiale, si tu veux, il n'a pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'altitude, il n'a même pas le temps en fait, de réagir. Et donc, le temps qu'ils parlent à la tour de contrôle, qu'ils doivent prendre sa décision et finalement qu'ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire, il a décidé de se poser sur l'Hudson. Et en l'occurrence, il réussit et il sauve donc l'intégralité de l'avion. Et toute l'histoire de ce film, c'est que finalement, il a été poursuivi par la FAA, donc la Fédération Aéronautique Américaine, parce que théoriquement, en fait, il aurait pu il aurait dû rebrousser chemin et essayer de se poser à l'aéroport. Et en fait, si tu veux, ça prend pas en compte finalement quelque chose d'hyper important, qui est le facteur humain, qui est que le fait que le mec, si tu veux, il avait le monde entier qui était en train de s'effondrer autour de lui. Il a eu, je sais pas, même pas une minute, si tu veux, pour prendre sa décision. Et en fait, c'est hyper difficile, quoi. Et donc, finalement, il a gagné le procès, etc. Mais c'est assez important, je pense, de rappeler que finalement, quand t'es dedans, c'est quand même pas la même chose que quand t'as 150 personnes qui, derrière, font un audit, tu vois, pour te dire, voilà quelle aurait été la procédure qu'il aurait fallu respecter.
Oui, c'est ça. C'est un peu ça. En chirurgie, on prend toujours les décisions rapidement parce qu'on ne va pas s'asseoir un quart d'heure pour réfléchir pendant qu'on opère.
C'est
ça. Donc, en fait, les décisions, on les prend de façon instantanée. Et en plus, on n'a aucun interlocuteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'aide opératoire, à la ponceuse ou à l'anesthésiste. Donc, dans sa tête, on dit « je fais ». Voilà. Et après, « je fais ». Une fois qu'on est lancé, en plus, il faut aller jusqu'au bout de ce que je fais. Quoi. C'est le choix qu'on a fait. Donc, il ne faut pas se planter dans son choix parce qu'après, il faut aller jusqu'à la fin. Donc, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que je me méfie toujours des gens qui viennent en consultation et qui arrivent en disant « Oh là là, regardez, mon chirurgien, il m'a raté. Alors, souvent, moi, je laisse un petit temps de latence quand ils attaquent comme ça, parce que c'est assez fréquent. Hein. Alors, regardez, c'est horrible, j'ai le doigt tout rétracté ou j'ai le bras tout raide. Regardez, c'est vraiment un travail qui est nul. Je viens vous voir pour que ce soit mieux, parce que c'est une catastrophe, c'était un mauvais. Alors, à ce moment-là, en général, les gens, c'est souvent après des accidents. Je leur dis, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, peut-être, que l'accident est en cause ? Et les gens, ça leur effleure pas une seule seconde l'idée que la maladie ou l'accident sont à l'origine de leur problème et pas le chirurgien. C'est-à-dire qu'un résultat qui est mauvais est souvent mauvais parce que le point de départ est quand même un accident et quelque chose de cassé, et que la réparation ne ramène pas à l'état normal, c'est assez logique. Et alors effectivement, parfois on peut faire mieux, mais regardez, c'est nul ce qui m'a fait. Ça fait que on se retrouve dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est l'analyse du patient et bien comprendre quelle est sa demande et quelle est sa compréhension des choses. Et quelqu'un qui attaque comme ça, théoriquement, il faut faire un pas en arrière et dire « Attendez, je vais peut-être pas vous prendre en charge parce que ça va forcément mal se passer. Vous avez un jugement qui n'est pas déjà correct parce que vous n'avez pas fait un retour sur vous-même de « Si j'avais pas conduit trop vite et que j'avais pas glissé à moto et que j'avais pas gagné un feu ou que j'avais pas conduit ivre ou que j'avais fait attention, j'aurais pas d'accident et le responsable, c'est moi et le chirurgien est venu à mon aide. » Et les gens arrivent en disant « Le chirurgien m'a raté, regardez, c'est une catastrophe. » Alors qu'ils sont tombés... parfois, ils y sont pour rien, les pauvres. Hein. C'est pas la critique du patient, bien sûr. Mais ça veut dire que les gens n'ont pas un esprit de groupe, ou du moins de binôme. Moi, je dis toujours aux patients, quand je les opère, je dis, écoutez, on forme une équipe, on forme un binôme, et moi, je prends pas la décision pour vous, et moi, je ne fais que le geste technique, je vous aide à choisir, mais on est deux, et le résultat, il va dépendre de nous deux. Et si on met pas le patient dans la boucle, le patient se prend pas en charge, il va chez le kiné, il dit c'est le kiné qui va travailler, il va chez le docteur, c'est le docteur qui décide, et il est pas partie prenante. Et quand il est pas partie prenante, on va dans le mur. Alors c'est extrêmement important. Et donc c'est pour ça que c'est un rapport humain qui est quand même passionnant, c'est qu'il y a beaucoup plus que l'acte technique. Ouais.
Complètement. Quand même, pour parler de l'acte technique, je voulais te poser une question, parce que quand tu me dis que parfois il y a des opérations qui durent 8 heures, 10 heures, moi ça me fascine un peu, je t'avoue, au niveau de la concentration, parce que j'ai quand même en plus l'impression que vous êtes... je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein, j'ai jamais été dans un bloc, mais tu sais, quand tu vois les films et tout, j'ai l'impression que vous êtes concentré. Réussir à être concentré pendant 8 heures, j'imagine que c'est possible. Moi-même, j'ai fait des concours dans ma vie, donc je sais qu'on peut être très concentré pendant longtemps, mais c'est quand même un exercice déjà extrêmement fatigant et puis qui nécessite un peu d'entraînement. Est-ce que pour toi, en fait, ça fait partie justement des qualités finalement du chirurgien, cette capacité de concentration forte? Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez? Est-ce que toi, peut-être, c'est juste tu vois, que tu as l'habitude, donc maintenant tu le fais bien? Ou est-ce que tu t'essayes justement de le susciter? Enfin, je suis assez fasciné par cette question.
Je ne pense pas qu'on l'ait au départ, je pense qu'on l'acquiert avec le temps. C'est-à-dire que c'est une formation qui est longue, comme je te l'ai dit. Et c'est une formation où, alors déjà, là, c'est beaucoup allégé, parce que maintenant, les internes, quand ils ont fait une garde, ils ont le droit de se reposer, ils ont l'obligation de se reposer, et ils ne continuent pas. Mais moi, quand je l'ai fait, les études, on avait l'obligation, et c'était une tradition, on travaillait beaucoup sur les traditions, de faire nos journées et de faire les nuits de garde. Et le lendemain de la nuit de garde, il fallait faire sa queue de garde, c'est-à-dire que ceux que l'on avait recrutés en garde, il fallait impérativement l'assumer. Ce qui permettait aux autres de considérer que tu n'avais pas pris des patients pas tentants pour les refiler aux voisins. Et c'était une sorte de tradition d'une part, et c'était un honneur de le faire. Donc on faisait des gardes, alors comme quand tu es en chirurgie, on était 3 ou 4 par service. Donc le principe, c'est que il faut tourner avec une permanence 24 heures sur 24 à 3 ou 4, ce qui fait qu'on passe... une nuit sur 3 à l'hôpital quand même, avec les week-ends. Donc, pour essayer de minimiser la quantité de week-ends qu'on faisait, on prenait les gardes du vendredi matin et on terminait le lundi soir, puisqu'on faisait la journée de vendredi, on prenait la garde du vendredi au samedi, on faisait tout le week-end, parce que sinon, on faisait trop de week-ends de garde et ça nous bouffait trop de week-ends. Donc, on faisait le samedi, le dimanche, c'est-à-dire jour-nuit. Alors, on arrivait à dormir, enfin, c'est des sommeils entrecoupés par des urgences, on est réveillé tout le temps, parfois ou pas trop, en fonction de la chance qu'on a ou qu'on n'a pas. Et on faisait donc le lundi soir sa queue de garde, donc ça faisait des présences à l'hôpital où on avait passé du vendredi matin jusqu'au lundi soir, avec un non-stop.
Ouais, tu dois être en zombie quand même un peu.
Et puis des nuits où quand t'es dans une chambre de garde, on te réveille pour tout parce que t'es responsable, donc systématiquement on t'appelle, il faut que t'ailles voir, donc tu te lèves 10 fois par nuit, c'est des sommeils entrecoupés, donc c'est formateur, l'air de rien c'est formateur, ce qui fait que maintenant à la limite tout paraît simple parce que maintenant quand t'es installé... t'as pu te lever la nuit, t'as tes week-ends. Alors la concentration, que ce soit une opération longue qui dure 8 heures ou 8 opérations qui durent 1 heure, la concentration elle est à peu près la même. Donc on a quand même un training qui est important.
C'est impressionnant. Moi qui suis assez sensible au fait de bien dormir, j'ai toujours été assez estomaquée justement par ces notions de garde et le côté sommeil entrecoupé. Aujourd'hui, tu dors toujours peu ou t'arrives à maintenant tu t'es habitué finalement à dormir peu ou finalement tu...
Bah, c'est comme les marins. Ouais, moi je suis capable de faire des micro-siestes et d'arriver à dormir et de récupérer en très très peu de temps. Ouais. Mais parfois on est un peu KO. Il y a des fois on s'endort un peu en consulte et ça. Alors les gens ils se disent oh là là, il fait pas très réveiller mon chirurgien. Mais c'est parce que on récupère en permanence en fait. Hein. Alors maintenant c'est beaucoup plus confortable qu'avant, mais encore que de temps en temps les missions humanitaires par exemple, on a pareil, on retombe sur ce qu'on faisait quand on était de garde, on n'arrête pas et c'est parfois très lourd. Ouais.
Bah écoute, tu me fais une bonne transition parce que je voulais justement parler de tous tes engagements humanitaires. Et je t'avoue qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant les... Alors qu'on se connaît, hein, j'ai découvert ça finalement quand j'ai fait mes recherches sur toi. J'étais hyper impressionnée parce qu'en plus de tout ce que tu fais dans le cadre de ton travail, donc si j'ai bien compris, t'es quand même très impliquée depuis de longues années dans un certain nombre de sujets de médecine humanitaire sur la base du volontariat et donc dans plein de types d'organisations différentes. Et je voulais te poser une question à ce sujet, c'est qu'est-ce qui t'avait premièrement... motivé, incité, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé finalement dans ce pan de la médecine qui est très belle, mais qui n'est pas non plus exercée par tout le monde, quoi.
L'humanitaire, je pense que ça fait partie de la... Je vois difficilement comment on peut être médecin sans participer à l'humanitaire. Alors l'humanitaire, il est à tous les niveaux. Hein. Ça peut être de travailler dans un dispensaire en région parisienne. On fait de l'humanitaire tous les jours, quelque part. Hein. Alors ça s'appelle pas comme ça, mais quand on dit il faut prendre les gens au tarif CMU, il faut prendre tous les indigents, et puis il faut arriver à soigner tout le monde, on soigne tout le monde. Donc c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et qu'il faut faire au quotidien, sinon ça n'a pas de sens. Hein. L'humanitaire dans les associations où on part, ça permet de voir d'autres pays, d'autres cultures et d'aider des gens qui n'ont pas de chirurgien. Alors là, ça change radicalement l'engagement parce que tout à l'heure, ce que je disais, c'est que si on fait quelque chose et même si on est content d'avoir fait bien, on sait très bien que quelqu'un d'autre le fera à notre place en France. Par contre, quand on part en mission, on va dans des pays où si on ne le fait pas, personne ne le fait. Ouais. Et là, ça change tout. Et là, je trouve que le côté gratifiant du métier est multiplié par un facteur incommensurable. Donc moi, les premières missions que j'ai faites, j'étais parti au Laos, à l'époque où c'était vraiment ultra politisé, communiste, avec... j'avais été dans un hôpital russe. Alors pareil, j'étais jeune, j'étais parti, j'étais encore en cours de formation, j'étais jeune chef. Et on m'avait dit, t'inquiète pas, tu vas partir, là-bas, il y a un tuilage, il y a toujours un senior, tu seras pas tout seul. Et puis je suis arrivé là-bas, évidemment, le chirurgien était reparti parce qu'il avait des charges aussi, et c'est que du bénévolat, donc il était reparti plus tôt que prévu, et je suis arrivé, j'étais tout seul dans un hôpital russe où l'ambiance était fort sympathique parce que les gens étaient adorables, mais c'était un hôpital qui était avec un dénuement total, les seringues étaient en verre, il y avait aucun matériel. Moi j'étais arrivé avec des prothèses que j'avais dans un sac que j'avais amené, mais il n'y avait aucune prothèse. On a posé les premières prothèses de hanche du Laos, donc c'était assez extraordinaire. Et en plus, dans une ambiance qui était particulière, parce qu'il y avait un commissaire politique qui était un des brancardiers, qui donnait des ordres à tout le monde, mais en sous-main. C'est-à-dire qu'on avait un chef de service qui était médecin avec qui on parlait, et au final, le matin, après le staff, la discussion qu'on faisait entre nous et en langue française, fort heureusement, il y avait après, on nous faisait sortir, et puis il y avait le chef du groupement politique local qui reprenait tout le monde en main, qui engueulait ou pas d'ailleurs les gens. Nous, on était tenus à l'écart, et puis après, on retravaillait, mais dans des conditions qui étaient assez étonnantes. Et c'était passionnant parce qu'il y avait une gratitude des gens qui était inimaginable, dingue. Avec des pathologies.
Puis du coup, là, tu faisais pas du tout que de l'orthopédie de la main, pour le coup, c'est du membre supérieur.
Non, quand on part en mission, on fait tout sauf ce qu'on sait faire, on va dire. C'est un hôpital où il y avait pas de cuisine, les gens venaient avec leur famille. Ils venaient avec leurs chèvres, ils venaient avec leur nourriture, ils faisaient des feux dans la cour, ils faisaient à manger dans les couloirs, parce que là-bas, comme il n'y a pas de nourriture pour les gens, les familles viennent. C'est une ambiance incroyable. Et alors, on fait que des choses qu'on n'a jamais fait. Ou une grande partie. Alors, évidemment, on essaie de faire ce qu'on sait bien faire et ce qu'on ne sait pas faire, on ne le fait pas, mais de temps en temps, on n'a pas le choix. Et c'est un peu compliqué. Ce qui fait que moi, après plusieurs missions, j'avais été au Vietnam après, et puis j'ai fait d'autres missions. J'ai décidé d'essayer d'élargir un petit peu mon champ de connaissances. Et donc, moi, j'ai fait une formation militaire, en fait. C'est-à-dire que j'avais fait un service militaire dans le cadre de mon cursus universitaire. Les 16 ans après le bac, c'était que la médecine. J'ai fait 2 ans de service militaire, parce que moi, j'étais parti outre-mer, donc ça rallonge le temps de service. Et là, j'avais fait que la chirurgie qui était classique, puisque j'étais dans un hôpital outre-mer, où je faisais la chirurgie que je savais faire, la chirurgie conventionnelle. Et en mission humanitaire, j'ai trouvé des chirurgies qui étaient tellement différentes que je me suis engagé, en fait, dans l'armée. Le service que j'avais fait, c'était ce qu'on appelle le volontariat technique. Donc, on n'est pas en uniforme et donc, on n'a jamais marché au pas ou quoi que ce soit. Et donc, moi, j'ai pris la décision, assez tard d'ailleurs, de m'engager pour faire... un service militaire en fait en tant que réserviste dans la réserve opérationnelle. Et j'ai fait une formation, mon but c'était pas de défiler ou de tirer au fusil, hein, mais de pouvoir participer à une aide humanitaire dans le cadre de structures, qu'ils soient les structures françaises pour aller dans des coins où effectivement la France s'engage et c'est tout à son honneur et ça me paraissait très très louable. Par ailleurs, pouvoir avoir une formation qui s'appelle Kachirmex, qui est une formation à la chirurgie de guerre et qui permet de faire une chirurgie qui soit plus polyvalente.
Oui, donc en fait, là, tu peux, en gros, comme tu es sur un terrain de guerre, il faut que tu puisses quasiment répondre à tout, quoi.
Alors là, l'armée nous forme à faire des chirurgies. Alors, on n'est pas très nombreux à être dans ce circuit, mais c'est une chirurgie qui nous permet de faire des chirurgies abdominales, des plaies par balles de thoraciques, des craniotomies, des énucléations. L'énucléation, c'est quand on enlève un œil quand il est abîmé. C'est des chirurgies que j'ai jamais vues, que j'ai jamais fait et qui sont impressionnantes. Faire des trachéotomies, faire la chirurgie de guerre. La chirurgie de guerre, il faut être capable de se débrouiller tout seul dans toutes les circonstances de guerre. Alors, c'est une chirurgie qui n'est pas forcément sophistiquée parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de faire, en fait, une chirurgie qui s'appelle le conditionnement du patient, si on veut utiliser des termes pas techniques. C'est-à-dire que l'idée, c'est on reçoit un blessé de guerre et on le met en condition de pouvoir être transporté sur un hôpital où va être effectuée une chirurgie secondaire beaucoup plus sophistiquée avec un matériel beaucoup plus performant. Alors, c'est une formation qui permet de faire face à toutes les situations, y compris les plus trash, hein, parce qu'il y a des trucs dans la chirurgie de ce type qui est quand même particulièrement éprouvante ou choquante, hein, parce que c'est des trucs qui sont...
Tu quand peux quelqu'un, imaginer que psychologiquement, c'est pas facile quand tu vois quelqu'un...
Un patient qui expose sur une... Quoi, un militaire qui expose sur une mine, ouais, ça peut être assez impressionnant. Et ça m'a beaucoup servi, parce qu'après, en fait, je suis parti en mission avec l'armée, et donc j'ai fait... quelques missions militaires, et ça, c'était très intéressant. Et du coup, j'ai fait plein de raids militaires, c'est-à-dire des formations, parce que à l'armée, ce qu'il faut, c'est à la fois soigner, mais être capable de se défendre pour pas peser pour le militaire. Donc, il faut faire des formations combat.
Et donc, ils te font quand même aussi apprendre à...
On t'apprend à savoir comment réagir si tu te fais kidnapper, à savoir te défendre, à savoir tirer, parce qu'il faut pas que tu sois un boulet pour les militaires, parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Donc, ils sont très cohérents dans leur approche. Tout est très réfléchi, très méthodique. Hein. Le service de santé des armées, c'est quelque chose de performant et qui s'incrémente en plus avec toutes les armes. Donc, ils t'apprennent à être capable d'agir dans des conditions. Si tu vas avec la marine, il faut savoir agir en marin. Si tu vas avec l'armée de l'air, il faut savoir te comporter avec des gens qui sont de l'armée de l'air. Si tu vas à l'armée de terre, ça change. Donc, c'est très intéressant. Et c'est très polyvalent, donc j'ai fait plein de formations militaires, apprendre à ramper dans les égouts, apprendre à tirer avec un masque à gaz, apprendre à mettre une combinaison NBC, courir, marcher avec des cailloux sur le dos. Alors ça, c'est des trucs qui sont à la fois assez captivants, et en même temps extrêmement loin de la chirurgie.
Bah, et puis surtout, quand tu dois faire ça, j'imagine, et après opérer des mecs, ça doit quand même être quelque chose. Enfin, je sais pas si ça a pu t'arriver de le faire dans la même journée, mais j'ai un peu l'image d'Épinal, tu vois, de tes... Tu dois crapahuter parce que il y a un vrai enjeu à un moment donné et tu dois t'en sortir. Et puis ensuite, finalement, tu retrouves, quand tu arrives sur le camp, ton job de médecin, c'est un peu comme du biathlon, cette histoire. C'est-à-dire que tu es à fond, et puis tout d'un coup, tu dois apprendre à...
Il faut être capable de faire les deux. Oui. Alors, on nous forme à ça. Alors, en tant que réserviste, ils ne nous mettent pas sur les missions les plus complexes. Hein. Autant les chirurgiens militaires qui font que ça, ils vont sur les coups franchement durs. Nous, on vient en appui parce que, bon, ils ont bien compris qu'on était à la fois des civils qui faisaient des militaires et qu'on n'avait pas non plus le cursus militaire.
Vocation, en fait, ouais.
Mais tout peut arriver. C'est-à-dire que quand on est envoyé sur une mission militaire, la mission militaire, une fois qu'on est oui, on est dessus et on est tout seul dessus. Et si ça explose, là, on s'y attend pas, on est censé faire face quand même. Donc, on a la formation pour. Et en même temps, on fait pas non plus. On n'a pas la vision guerrier. On est des civils. Et moi, je suis chirurgien. Et mon idée, c'était surtout de faire de l'humanitaire. Et donc, je me disais que l'humanitaire dans les régions les plus chaudes, c'est celle où les organismes humanitaires peuvent pas aller. Donc, c'est là que ça rendait le plus service et que l'armée pouvait se permettre des engagements que ne se permettent pas des organismes humanitaires qui sont pas militarisés. Et ça m'a permis de faire aussi beaucoup de missions humanitaires avec d'autres organismes. Et moi, j'avais été notamment en Haïti où il y avait eu le tremblement de terre où j'étais parti parce que justement, j'avais pris un peu confiance grâce à cette formation. Et alors là, ça, je me rappelle très bien. En Haïti, c'est quand il y a eu le tremblement de terre, j'entendais la radio.
C'était en quelle
année, ça ? Haïti, c'était en 2010. C'était en janvier 2010.
Ah oui, donc
2010.
C'est récent quand même.
Alors, janvier 2010, il y a quand même eu... C'était un tremblement de terre qui était redoutable. Hein. Il y a eu 300 000 morts, il y a eu 300 000 blessés, il y a eu 1 million de gens qui étaient dans la rue, il y avait une situation quasi d'émeute. Là-bas, c'était très très impressionnant parce que les Haïtiens, bon, ils vivaient dans une, dirais, des conditions politiques difficiles. Ils étaient déjà sous mandat ONU parce que la gestion locale était quand même complexe. Il s'avère que les secours sur place ont été extrêmement difficiles à amener. Et au départ, il n'y a pas eu de secours pour une raison simple, c'est que c'était l'organisme de l'ONU, c'était la MINUSMA qui s'occupait de gérer Haïti. Et en fait, ils ont été pour la plupart tués dans le tremblement de terre. Donc, ils se sont retrouvés avec une décapitation complète de tout ce qui pouvait organiser quelque chose de cohérent. Et avec comme seul moyen de liaison un aéroport qui était à peu près en état, mais qui n'était quand même pas fonctionnel immédiatement parce que la tour de contrôle s'était écroulée. Et donc, des secours qui sont arrivés extrêmement tardivement, grâce aux Américains d'ailleurs, qui ont déployé des moyens monstrueux parce que c'est tout près de leur compte. Je pense qu'ils avaient franchement intérêt à le faire, mais ils l'ont fait de façon très technique. Et on a pu arriver sur site à partir de 8-10 jours du tremblement de terre, ce qui est extrêmement tard, parce qu'il y a des gens qui étaient sous les comptes quand même. Donc il y a eu un engagement très fort là-bas, chez des gens. En plus, un Haïtien, il a 2 jours de réserve de nourriture, hein, donc des conditions sanitaires, avec des cadavres dans les rues, des gens qui n'étaient pas enterrés, des odeurs pestilentielles. Et donc la formation Kachirmec, j'ai pas regretté, parce que au moins on arrive déjà, on est dans un terrain qui est hautement militarisé, parce que évidemment comme les prisons avaient été détruites par le tremblement de terre, il y avait l'ensemble des prisonniers qui étaient en liberté. Alors les prisonniers haïtiens, en plus, c'est quand même les tontons Macoutes, et c'est des gens qui sont quand même des gens franchement franchement dangereux. Ouais. Donc l'ambiance dans les rues était plus que explosive. Donc voilà. Et ça, c'était une mission assez marquante, hein, parce que bon, quand on marche au milieu des cadavres, qu'on sait qu'il y a des gens sous les décombres, et en plus il y avait des répliques, donc la terre continue à trembler. C'est très particulier.
T'es resté combien de temps là-bas?
Moi, je suis resté. Alors, c'est très court, hein, l'émission, parce que de toute façon, au bout d'un certain temps, tout le monde est mort. Hein, donc, et en plus, on est arrivé tard. Donc, moi, je suis resté 15 jours. C'est 15 jours, mais ça paraît une éternité. Hein.
Oui, 15 jours, et puis t'es non-stop. Tu t'arrêtes pas, quoi, quand t'es...
Alors, j'étais parti avec les SAMU de France. Oui, t'arrêtes pas. Oui, bien sûr. On se repose très peu. Moi, j'étais parti avec les SAMU de France. Et en fait, j'avais entendu à la radio qu'il n'y avait pas de médecin, que c'était un peu la catastrophe et qu'il fallait bouger. Et puis que, voilà, il n'y avait pas suffisamment de gens pour opérer. Donc, moi, j'étais dans ma voiture allant travailler dans ma chirurgie libéral, et donc moi j'ai téléphoné à l'armée quand il n'y avait personne parce qu'ils n'avaient pas mandat pour partir et qu'ils ne se posaient pas. Et puis j'ai téléphoné un peu partout pour savoir s'il y avait quelqu'un qui partait, et en fait je suis parti avec le SAMU. Alors le SAMU, ça n'a rien à voir avec la chirurgie, mais en fait ils ont fait une mission SAMU et ils avaient besoin de chirurgiens. En fait, on est parti, on était 3 chirurgiens et toute une équipe SAMU avec plein d'anesthésistes extraordinaires, des infirmiers anesthésistes, des équipes soignantes et avec des pompiers. Ils avaient une organisation qui est celle du SAMU et des équipes de pompiers avec des équipes cynophiles et donc tout ce qu'il fallait pour travailler bien. Et on est arrivé, donc on a été un des premiers vols à se poser sur l'aéroport là-bas une fois qu'il a été dégagé pour les forces françaises, parce que globalement les Américains au départ ils ont dit non, on veut personne, et puis après ils ont laissé venir les aides humanitaires. Et après on a été répartis en fait en 2 groupes. Mes 2 collègues sont partis sur une structure pour monter une antenne chirurgicale, et moi j'étais tout seul sur l'autre structure, peut-être parce que justement j'avais une formation militaire, donc ils se sont dit que je pourrais peut-être assumer, et j'étais sur une structure avec des pompiers et avec des gens du SAMU, donc des gens qui ont été extraordinaires parce qu'ils ont permis justement de soulager les gens, de les endormir, et on a fait beaucoup de chirurgie. Alors c'est vrai que là-bas les critiques ont été qu'il y avait eu beaucoup d'amputations, et les Américains qui étaient sur place amputaient beaucoup. Nous, on a fait beaucoup de chirurgie de lambeaux et de systèmes de couverture pour éviter d'amputer, avec des techniques qui étaient très différentes d'ailleurs des chirurgiens américains. Donc, on a eu des échanges au départ assez froids, parce qu'ils ne nous voyaient pas d'un bon œil. Et puis, eux étaient très orthopédistes et pas ouverts à la chirurgie plastique. Et nous, en France, on a une formation souvent de chirurgie plastique, puisque dans les SOS mains, notamment, on fait beaucoup de chirurgie de reconstruction, ouais, de couverture par lambeaux, avec des systèmes qui permettent justement de protéger des os qui sont à l'air et de ne pas couper les jambes. Et du coup, les premiers échanges ont été un peu froids. Et puis à la longue, ils ont vu qu'on faisait des choses qu'ils ne faisaient pas. Et nous, on n'avait pas beaucoup de matériel, parce que moi, avec le SAMU, je n'avais pas des boîtes de chirurgie qui étaient très complètes. Hein. C'était pas l'équipement. Et on était, en fait, on est parti avec pas grand-chose.
Oui, puis tellement vite.
Et très, très vite, et avec très peu de matériel. Et du coup, ils nous ont prêté du matériel. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur deux jeunes chirurgiens plasticiens qui avaient traversé. Ils étaient en République dominicaine. Ils ont passé la frontière comme ça, de leur propre chef, un peu comme j'avais fait. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de venir. On s'est retrouvés à trois sur cette antenne et on a bossé comme des fous. Alors, du matin jusqu'au soir, bien sûr, avec des files d'attente, parce que c'est des afflux massifs. Hein, donc, il y avait les pompiers qui faisaient le tri. Et en gros, le tri, on était sur un hôpital qui était complètement détruit. Il y avait des fissures partout. Donc, une ambiance très, très particulière, parce qu'on a opéré sous tente dans la cour pour faire des chirurgies qui sont quand même des chirurgies, faire un lambeau ou faire une amputation sous une tente en plein air avec des mouches et la chaleur. C'est pas très simple. Et une partie de ce qu'on avait fait était dans la structure, mais qui manquait de s'effondrer. Donc en fait, on avait mis des repères, les pompiers français nous avaient mis des petits repères, et il fallait regarder les repères en permanence pour voir si le bâtiment bougeait ou pas. Alors il y avait des filles dans l'équipe, donc c'est une ambiance particulière, parce que par exemple quand tu vas aux toilettes, il ne faut pas fermer la porte, parce que si ça bouge, tu ne peux plus ressortir. Il fallait aller les portes ouvertes, il fallait surveiller les fissures, donc c'est une ambiance mixte, avec une ambiance de stress, une ambiance de chaleur, une ambiance de gens qui sont quand même très demandeurs, qui souffrent, des gens qui crient. Et dans tout ça, d'ailleurs, des choses très très étonnantes, c'est-à-dire que pendant qu'on opérait, on avait dans la cour des prêcheurs américains qui étaient des adventistes ou des gens de communautés religieuses comme font les Américains, qui sont pour nous des choses qu'on connaît pas du tout, et qui se mettaient en cercle et qui priaient comme ça, qui chantaient des choses qui nous paraissaient complètement ubuesques dans la situation où on était. Alors prier pour frère Adam qui va peut-être mourir et Dieu va le sauver, et puis nous on était en train d'opérer, on disait bah oui, on espère, mais c'était vraiment une ambiance assez assez déjantée. Alors quand on est fatigué, on a l'impression un peu de planer de temps en temps,
c'est ça,
d'un certain temps. Nous, on était logés à l'ambassade de France. C'est l'ambassade. Et les bâtiments étaient complètement détruits à l'ambassade. Donc, on était sous tente dans des conditions d'hygiène qui étaient quand même difficiles. On avait des systèmes de douches. C'était des douches qu'avaient monté les pompiers, qui ont fait un travail absolument remarquable. Et je crois que c'est eux qui ont apporté le plus d'aide, parce que alors on parle des gens qu'ils ont sauvés de sous les décombres, ça c'est extraordinaire, mais au final il y en a eu très peu, c'est-à-dire sur 300 000 morts, ils ont dû sortir une vingtaine de personnes de sous les décombres. Alors c'est admirable, parce que c'est la beauté de la chose, et les gens qui sortent, c'est tellement beau, notamment une fillette qui avait été sortie, qui avait fait toute la une des journaux, parce que c'était fabuleux, mais c'est très peu de gens. Le travail essentiel qu'ils ont fait, c'est qu'en fait ils ont amené un système pour mettre de l'eau dans des petits flacons en plastique. Ils avaient une machine pour fournir de l'eau potable, et ça a sauvé 1000 fois plus de gens que ceux qu'on a sortis des décombres. Alors ceci dit, si un jour on est sous une dalle en béton et qu'on est sorti, je pense qu'on espère psychologiquement, je pense que c'est très important de faire les deux, mais voilà. Et les douches, on avait des douches donc qui étaient communes. Alors ça pareil, c'est très particulier. Moi heureusement qu'on a une formation et qu'on n'est pas trop regardant. Mais en fait, on rentrait à une quinzaine. Alors j'étais avec des pompiers, alors tout de suite on se regarde, on dit oh, attends, ils sont bien bâtis. Et en pratique, on se mettait le savon, et puis en fait, il y avait un pompier qui ouvrait l'eau, il ouvrait, c'est-à-dire qu'il fallait se savonner à sec. Il faisait attention, je vous préviens, pof, et on avait une goutte d'eau, et hop, il refermait, quoi, parce que l'eau était comptée.
Oui, c'est à la dure, quoi.
Ah, c'était à la dure, ouais. On dormait sur le sol, on n'avait pas de matelas, on n'avait pas de trucs. C'était,
wow. Le retour à Paris a dû être assez étrange.
Ben, dans une indifférence totale, en fait, hein. C'est ça qui est le plus surprenant, c'est que on revient. Moi, pour revenir, j'ai cru que je reviendrais jamais, parce qu'en fait, en cours de mission, la mission s'est coupée en deux. Moi, j'étais parti avec le SAMU, et en milieu de mission, il y a la sécurité civile qui avait déployé un hôpital gonflable dans Port-au-Prince. Et alors ça, c'est extraordinaire, c'est toutes les carences de l'État français de temps en temps, c'est hallucinant, mais c'est qu'ils se sont retrouvés avec un hôpital gonflable où il y avait quand même un nombre de personnel considérable, et ils n'avaient pas de chirurgien pour une antenne chirurgicale. Donc ils sont venus voir le SAMU, discuter avec eux, et ils ont demandé à ce qu'un de nous trois aille servir sur l'hôpital gonflable.
Alors, ils ont déployé, je sais plus de 500 personnes, je crois.
Mais pas un seul chirurgien.
Il y avait toute une infrastructure, un hôpital gonflable, c'était extraordinaire. Alors, ils étaient partis très vite, je pense. Ils avaient très peu de matériel. Donc, ils allaient récupérer le matériel sur un bateau de la Marine nationale française qui était ancré, qui était un bateau hôpital. Donc, ils faisaient des allers-retours avec des Pumas, les SA-330, là, qui allaient récupérer du matériel sur le bateau qui était ancré dans la rade. Ils nous ramenaient du matériel pour qu'on puisse opérer. Et ils n'avaient pas de chirurgien. Donc, ils avaient un chirurgien au départ et puis qui était parti parce qu'il venait des Antilles et qu'il fallait qu'il retourne. Et puis, bon, c'était... Dans l'humanitaire, on se rend compte que tout est de l'improvisation à un stade qu'on n'imagine pas. Et donc, le retour, pour en parler, il a fallu que je négocie mon retour parce qu'ils ne voulaient pas trop que je parte. Donc, comme c'était eux qui assumaient les vols, il a fallu justement, le SAMU est obligé de céder au fait qu'ils se dépossédaient d'un de leurs chirurgiens pour le donner à la sécurité civile et sous peine de ne pas être sinon rapatrié si on ne faisait pas le donnant. Moi, personnellement, ça ne me gênait pas de travailler pour l'un pour l'autre. Hein, c'était aussi utile et l'ambiance était bonne et les gens étaient adorables. Et en plus, il y avait une telle équipe que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Mais
c'est
très particulier. Et le retour, moi j'ai attrapé un avion à l'arrache comme ça, tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que la mission se termine et qu'il rentre, on rentre tout seul. Personne ne m'a ramené. Je suis revenu tout seul et il a fait que je chope un avion.
T'as passé 15 ans, pas 15 jours à bosser.
C'est passé de l'humanitaire, c'est qu'on se démerde tout seul. Bon, voilà, mais ça fait partie du charme aussi.
Il ne faut pas attendre de gratitude.
T'en rien de personne et tu reviens à Paris. Alors à Paris, les patients, ils n'avaient pas compris pourquoi j'étais parti si vite. Moi, j'ai pris ma décision en 24 heures, c'est-à-dire que quand ils m'ont appelé, moi j'avais téléphoné pour pouvoir partir. Et quand ils m'ont appelé, au départ ils m'ont dit « Bon, écoute, on prend ton nom et puis on verra bien. » Et puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit « T'es prêt à partir ?» Moi j'ai dit « Écoute, ouais, attends, laisse-moi 5 minutes et puis mais on décolle ce soir, quoi. » Moi, j'ai appelé ma secrétaire, j'ai dit « On annule tout et puis voilà. » Alors c'est un peu spécial hein, parce qu'on se retrouve en fait pas très... pas très aidé, on n'a pas forcément besoin d'aide, mais enfin, quand on plante tous ces patients et qu'on a une activité libérale et que les patients ne sont pas très contents et qu'on part, c'est des choix qui sont un peu durs parce qu'on a l'impression d'abandonner quelqu'un quand même. On abandonne ses patients, on les trahit un peu quelque part, ceux qui ont programmé l'opération depuis 2 mois, 3 mois. Mais bon, voilà, c'est des choix qu'il faut faire.
Bon, je suis sûre que tu ne le regrettes pas et je pense que les auditeurs vont considérer que c'était le bon choix. Eric, pour terminer le podcast, je termine toujours par un espèce de crible de questions que j'aime bien, qui sont des questions un petit peu encore plus personnelles, on va dire. Et la première que je voulais te poser, c'est dans toute cette période, dans toute ta vie, que ce soit d'ailleurs à titre perso ou pro, est-ce qu'il y a un moment dont tu pourrais me parler que tu as vécu vraiment comme un échec et surtout l'enseignement que tu en as tiré? L'idée, c'est de se dire, c'est pas juste que voilà, tu t'as vécu un échec, on en a tous vécu, mais c'est globalement, qu'est-ce que ça t'a réellement appris sur toi? Ça peut être juste un moment de doute à la rigueur, mais qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur la vie, sur ton parcours?
Alors, oui, il y a un échec qui m'a énormément marqué. C'est un échec indirect, mais c'est quand même un échec que j'ai vécu comme étant très personnel. C'est quand j'étais chef de clinique, quand on est chef de clinique, on travaille avec des internes et on aide les internes à opérer, on les forme. Et j'étais avec un interne c'était une nuit, on était deux, on faisait une chirurgie qui était relativement basique pour une garde d'orthopédie, c'est-à-dire qu'on faisait une prothèse de hanche sur une fracture de hanche et une damagée. Et c'était un jeune interne, et alors la nuit, on essaie de travailler, on n'est pas très entouré, on est quand même, tout le monde sait qu'à l'assistance publique, on manque un peu de moyens de temps en temps. Et donc, pendant qu'on opère, lui opérait, et moi, j'étais en train d'opérer avec lui, mais je lui passais les instruments. C'est-à-dire que je me retournais vers la table, je lui donnais les instruments, je me retournais vers la table, je lui redonnais les instruments, et lui avançait. Puis on avait déjà fait ça ensemble, des gens conformes. Et puis, j'ai eu probablement un temps d'inattention trop long, et au moment où il a enlevé la tête du fémur, ça peut paraître un peu barbare pour les gens qui ne connaissent pas, mais on se sert d'un espèce de tire-bouchon pour attraper la tête, et on tire le tire-bouchon pour enlever la tête qui est au fond, puisqu'elle est cassée, il faut l'enlever. Et en fait, il a donné 3 tours de tire-bouchon de trop, et il a traversé le bassin, et il a été déchiré une artère derrière le bassin. Là. Donc, en une fraction de seconde, on a l'impression que sa vie bascule.
C'est un cataclysme total.
Et ça a été un cataclysme total, c'est-à-dire que... Mais, alors, on se sent, personnellement, mais ça arrive de temps en temps quand on opère aussi, quand on fait une bourde comme ça, que ça se met à saigner très fort. Entend, on n'a pas vu venir, il y a une artère. On se sent se liquéfier, vraiment se liquéfier. C'est une sorte de suée qui est horrible. Et là, ça a été une succession de cataclysmes, il a fallu retourner la patiente à toute vitesse, il a fallu ouvrir le ventre, il a fallu appeler vasculaire, il a fallu faire une chirurgie qu'à l'époque je ne savais pas faire. La patiente a failli mourir, elle était en réanimation. En réanimation, alors évidemment, alors quand on dit que les problèmes s'accumulent, c'est la loi de Murphy, toujours, cette pauvre patiente, ils l'ont intubée, ce qui était logique. Elle a fait une nécrose de langue sur la sonde d'intubation. C'est un truc qui n'existe jamais. Donc, elle a à la fois failli mourir. Elle a à la fois eu l'opération abdominale.
Elle a tout eu, quoi.
Heureusement, elle a survécu. Et elle a une nécrose de langue. Mais je m'en suis jamais remis. Et on est responsable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'interne, évidemment. Il n'aurait pas dû te donner le coup de tire-bouchon en plus. Mais je suis 100% responsable de ne pas avoir regardé au moment où il donnait ce quart de tour en trop. Et bon, c'est des situations qui sont cataclysmiques. Et alors, la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il faut ne jamais rien confier à personne. En fait, on dit toujours la confiance n'exclut pas le contrôle, mais cette phrase, elle est ancrée.
La confiance n'exclut pas le contrôle.
Complètement ancrée. Et du coup, je vérifie toujours tout. Alors, ça fait que les équipes, elles finissent par nous trouver un peu psychorigide, mais t'as bien fait ça ? Oui, j'ai bien fait ça. Montre, je vérifie que tu l'as bien fait. Alors c'est un peu puéril comme façon d'agir, mais je pense que c'est le principe d'être méthodique, c'est-à-dire s'imposer de toujours faire ce que l'on pense devoir faire et jamais déroger à la règle. Et c'est le principe de la checklist, on retombe sur ça, c'est ne jamais contourner des choses qui sont des garde-fous.
Ouais, parce ou des automatismes.
Et la deuxième chose surtout, c'est que la vie bascule vite. Hein. C'est que, et je pense que c'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est que là, on voit les gens, ils sont tous en vélo à Paris, avec des. Oui, hier, j'étais travaillé, il y a des enfants, des petits-enfants qui sont au milieu de la rue et tout. Les gens ne se rendent pas compte qu'en une fraction de seconde, tout change. Tout change. Hein. Il faut. Alors, malheureusement, ça ne rend pas très détendu. C'est qu'on a toujours une espèce de fond de stress qui fait que. Alors, c'est le métier qui veut ça, mais moi, je suis toujours en train d'anticiper l'accident. Quelqu'un coupe un légume, je dis, et il faut qu'il fasse attention, il va se couper un doigt. Donc, on anticipe les gestes. On est toujours un peu dans le cerveau tourne en permanence à fond pour anticiper les erreurs en voiture ou des choses comme ça. Tu es toujours en train d'anticiper le problème que tu peux avoir. Donc, on est dans un raisonnement qui n'est pas un raisonnement positif. On est dans un raisonnement de. Je me mets dans la situation du négatif et je le rends positif parce que j'ai anticipé le négatif. Donc, c'est, voilà, c'est une règle.
Évident. Mais je trouve ça intéressant encore de revenir quand même sur cette histoire de checklist parce que je sais que là, on a beaucoup parlé du secteur médical ou de l'aéronautique. Mais en fait, je trouve vraiment que ça s'applique finalement à beaucoup d'autres domaines et notamment, moi, un domaine qui me parle beaucoup, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, même quand tu es entrepreneur, si tu veux, si jamais tu veux créer quelque chose qui soit durable et construire, il faut à un moment donné créer un système et un système qui soit fiable. Et ça peut être tout autant pour vérifier comment tu vas accueillir tes clients en boutique, comment tu vas leur répondre au téléphone, etc. Donc l'idée, c'est pas de faire des scripts, mais cette idée finalement qu'avoir écrit noir sur blanc quelque chose de formalisé qu'on va revérifier, même si on connaît le truc par cœur, en fait, c'est ça aussi qui fait la différence. Et tu vois, des boîtes comme McDo, leur grand succès, c'est aussi en grande partie qu'ils ont des processus hyper fiables qui revérifient. Et c'est ça qui fait que ça marche et qu'on arrive, tu vois, à le rendre hyper développable quasiment à l'infini. Donc,
Oui, mais eux, c'est dans un souci de reproduction. Alors, le problème de la chirurgie, par contre, et c'est un des défauts de ce métier quand même, parce qu'il y a quelques côtés très négatifs, c'est qu'on ne peut absolument pas sous-traiter, en fait. C'est-à-dire qu'on soit très jeune ou très vieux, on ne vit que de son travail personnel. On ne peut rien déléguer à personne. Ouais. Donc, c'est un process qu'on s'impose à soi-même, en fait. C'est pas un process qu'on impose pour que les autres le reproduisent.
Ouais, je vois.
Donc c'est plus intériorisé, on va dire. C'est une façon d'être méthodique dans ce qu'on fait pour se protéger, en fait. Et ça libère l'esprit. Hein. Ça libère l'esprit que d'appliquer des rythmes qui sont préétablis,
des rituels,
en fait.
Ouais. Une autre question que j'aime bien poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire, mon cher Eric, qu'est-ce que tu referais différemment ?
Alors là, dans la vie, si on refait sa vie, est-ce qu'on fait la même hein? Ça, c'est une vraie question. C'est une question piège. Je suis pas sûr que je referais de la chirurgie. Je pense que je ferais pilote, c'est ce que je voulais faire. Quoique le métier a beaucoup changé, je pense qu'il est devenu franchement beaucoup moins intéressant. Non, je referais peut-être pas le même métier parce qu'il y a un défaut majeur, c'est que les études sont tellement longues qu'on ne fait qu'un métier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer de voie, on ne peut pas se remettre en question, on ne peut pas faire autre chose. C'est trop spécifique, c'est devenu trop spécialisé pour être suffisamment polyvalent pour pouvoir passer à autre chose. Or, Je pense que quand on choisit sa vie future, il faut, en tout cas c'est le conseil que j'ai donné à mes enfants, c'est choisir un métier qui permette de changer de voie en cours de vie pour avoir peut-être deux métiers, deux vies, différentes options. On vit plus longtemps qu'avant et les études sont trop longues et le fait d'être cantonné dans quelque chose de si pointu fait qu'on est quand même dans un espèce de microcosme qui est d'abord un peu hermétique par rapport aux autres et qui est quand même très 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 fermé par le temps qu'il faut pour y arriver et l'impossibilité de changer. Ouais.
Dernière question que j'ai mis à poser, c'est sur les livres qui t'ont le plus marqué, qui t'ont le plus inspiré, peut-être que t'as le plus recommandé autour de toi, et vraiment là, sans toi, parce que ça peut être tout autant de la littérature, des bouquins de médecine, alors je vais pas y comprendre grand chose, mais pourquoi pas, ou des BD si tu veux. Est-ce que voilà, il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué?
Non, de médecine sûrement pas, parce qu'on passe son temps dans ce métier à lire de la médecine et à écrire beaucoup d'articles. Non, ça, je fuis la médecine dès que je peux, parce que ça prend trop de temps. Et les temps libres, c'est la littérature. C'est un livre que j'ai recommandé à personne, parce qu'il est totalement illisible à mon avis.
on va s'y attaquer quand même.
C'est un peu trash, j'ai trouvé. C'est Les Bienveillantes de Jonathan Little.
Je l'ai pas lu, mais il paraît que c'est exceptionnel.
Qui est un livre qui m'a beaucoup impressionné parce que, ben, d'abord, on retrouve...
C'est sur la guerre d'Algérie, c'est ça, hein?
Non, pas du tout. Non.
Ah, c'est, je comprends.
C'est... Alors, c'est justement, c'est non recommandable. Bon, ça a été Goncourt et ça a été très primé, donc ça rend le livre à la rigueur quand même lisible sans avoir honte. Mais c'est la vie d'un SS pendant la guerre qui fait partie de commando d'extermination et qui parcourt toute l'Europe. Et qui est officier et qui non seulement fait ça, mais en plus de ça fait ça bien et fait ça sans y mettre en fait dans l'histoire aucun affect, c'est-à-dire qu'il a même pas d'idée franchement ni négative ni d'a priori ni de critique vis-à-vis des gens qu'il extermine. Et c'est un peu comme La Mort est mon métier, c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui sont extrêmement poignantes, qui sont extrêmement crues. C'est écrit par un Jonathan Little, il est franco-américain, mais je crois qu'il a passé 5 ou 6 ans à éplucher toutes les bibliothèques d'Europe pour arriver à trouver des documents qui sont extraordinaires de précision quant à ce qui s'est passé, aux crimes de guerre, au matériel engagé, au mouvement de troupes. Et il a fait un mélange qui est extrêmement surprenant parce que c'est à la fois, sur le plan historique, extrêmement documenté. C'est passionnant parce que ça retrace quand même une période tellement poignante de notre histoire et qui est très proche. Et par ailleurs, il a fait ça de façon très littéraire, c'est-à-dire qu'il a d'abord mis ses chapitres comme des menuets, c'est-à-dire qu'il a fait différentes étapes qui sont très musicales. Il a fait ça en sept chapitres avec différents rythmes de danse pour chaque chapitre. Ça, c'est très original, j'ai trouvé. Et ensuite, il s'est inspiré d'Eschyle pour monter son roman. Et en fait, c'est tout basé sur une mythologie grecque
de la tragédie,
une notion de tragédie, de parricide. Et en fait, c'est quelque chose de très, très étonnant. Et ça s'apparente beaucoup aussi à Vie et Destin qui est un bouquin que j'avais bien aimé, c'est Vassili Grossman qui l'a écrit, et qui est un livre qui se passe un peu à la même période, mais qui est vu côté russe, avec la période Stalingrad et autres. Et c'est pareil, c'est des destinées qui sont absolument épouvantables du fait de la période, avec des gens qui sont quand même, qui ont une espèce de recul sur ce qui se passe, qui est glacial, mais en même temps extrêmement lucide, et avec une vue très critique de ce qu'ils font et très critique de l'époque dans laquelle ils sont, et qui amène en fait à se poser la question qui est quand même pas innocente, je trouve, c'est que ces gens qui, alors là en l'occurrence un bourreau, se retrouvent dans une situation où on se dit que s'ils avaient été dans l'autre camp, ils auraient été aussi perfectionnistes dans ce qu'ils ont fait, et en ayant tout le crédit, en faisant final exactement la même chose.
Ça fait poser la question.
Et que le côté différentiel, c'est de quel côté ils étaient de la ligne de démarcation quelque part. Et c'est assez épouvantable comme réflexion, parce que ça incite à beaucoup réfléchir. Alors après, dans il fait 900 pages le livre, c'est super dur à lire, je trouve, parce qu'il y a des instants franchement difficiles, parce que c'est les crimes de guerre, donc ça retourne complètement l'esprit. Et puis il y a des notions de rapport entre lui et sa sœur, parce qu'il était amoureux de sa sœur. Il y a des questions d'homosexualité, il y a des questions de parricide. Donc ça touche à beaucoup beaucoup de choses. C'est un roman qui développe tellement de diversité et de choses profondes que ça m'a complètement remué. Et je le recommande à personne parce que je pense qu'il faut s'accrocher. Ouais, il faut s'accrocher pour le finir déjà, parce que c'est pas facile à lire. Et puis, ça amène à réfléchir. C'est un bouquin, on ferme le livre de temps en temps. C'est rare hein, que tu fermes un livre et tu dises « bon, je m'arrête 10 minutes et je réfléchis ouais. ». C'est rare, parce que souvent un bouquin, on le pose, on le rouvre, on le ferme, 5 minutes après, on a oublié. Et de façon plus ludique, il y a un auteur qui est beaucoup plus sympa à lire, qui est plus roman policier, c'est Philippe Kerr, qui fait des romans policiers qui sont... Alors, c'est un auteur anglo-saxon, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il est mort il y a 2 ans, je crois. Et qui est qui parle de son héros qui s'appelle Gunther, je crois, et qui est un policier qui fait des enquêtes pendant la période nazie et qui ne supporte pas le national-socialisme et tous les nazis, mais qui collabore avec parce qu'il est policier et qu'il est amené à faire des enquêtes dans un milieu où il détaille toute cette période qui est complètement folle parce que c'est des gens fous et des gens qui font des choses avec des pouvoirs qui sont complètement démesuré par rapport à des volontés qui sont parfois complètement surprenantes. Soit ils sont intéressés par l'argent, soit ouais. par la mort, soit par des trucs. Et alors on leur donne des pouvoirs qui sont complètement démesurés dans une période où tout était permis et où il s'est passé le plus dément. Et lui a une analyse très lucide avec des mots d'humour. Donc c'est toute cette période-là, je la trouve très importante parce qu'elle conditionne un peu qui on est actuellement et elle conditionne, à mon avis, beaucoup de choses de ce qui se passe actuellement dans l'évolution de nos sociétés. Et je pense qu'on aurait vraiment intérêt à beaucoup plus analyser le passé proche pour bien comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer. Quoi. Ça fait réfléchir beaucoup.
Écoute, tu m'as donné envie. Alors, Les Bienveillantes, tu m'as à la fois donné envie, mais en même temps, tu dis qu'il ne faut pas le lire.
J'ai dit que je ne peux pas le conseiller comme mais ça. Ouais, si ouais. on arrive, on dit Les
mais
Bienveillantes.
Je vois ce que tu veux dire.
Oui, ça peut, c'est un côté un peu sordide quand même. Donc, c'est assez particulier.
Écoute, je vais quand même peut-être m'y atteler. En tout cas, Eric, je voulais te remercier d'avoir pris le temps. Je voulais te demander si on souhaite te trouver sur le monde du web. Je crois que tu es présent sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te contacter éventuellement?
Oui, j'ai ouvert un site. En fait, j'ai fait un site internet où je parle de la chirurgie que je fais. J'étais un peu étonné que les sites internet soient tous, quand c'est des sites de chirurgiens, très axés sur vous avez une pathologie, venez me voir et je vous opère avec le numéro de téléphone. Donc j'ai fait un site dont je souhaitais qu'il soit plus un blog. Donc j'ai beaucoup parlé des pathologies pour que les gens les comprennent dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, que je pense que c'est important de s'approprier sa pathologie pour au moins la comprendre, pour mieux la gérer et la digérer, on va dire. Et donc, à cette occasion, j'ai fait effectivement une page LinkedIn. Alors, mon site, il a mon nom, donc c'est pas très compliqué.
Ericroulot.com,
et le site LinkedIn, c'est voilà, professeur Ericroulot, et on me trouve par le même biais. Et voilà, j'ai ouvert ce LinkedIn justement pour être en accord avec mon site. Et en fait, avant, j'étais pas très branché sur ce genre de mode de communication.
Ouais, comme ça, c'est bien. On va pouvoir te contacter. Merci à toi, Eric.
Ben, merci Pauline, c'est gentil à toi de m'accorder tout ce temps et de poser des questions qui sont passionnantes, demeurant.
Bah, je peux te dire que tu m'as soufflé avec l'humanitaire. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on se connaît depuis des années. Comment est-ce qu'il m'a pu me cacher ça? Je vais devoir le griller de questions maintenant.
Il y a une partie des aides humanitaires dont je peux pas parler parce qu'il y a des aides humanitaires militaires, donc ça on n'a pas trop le droit, on a un droit de réserve. Donc l'émission que j'avais fait dans le sol indien notamment sur... Cyclone Nargis, qui était passionnante aussi, c'était un cyclone qui avait également fait plein de... Mais bon, là, on est couvert par une obligation de réserve, donc voilà. C'est plus compliqué.
Bah, merci d'avoir partagé, en tout cas. À bientôt.
Merci à toi.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'ai j'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.